Voici une question qui est d'actualité et qu'on ne doit surtout pas prendre à la légère. Est-ce que c'est bien de faire de la sorcellerie un jeu? La parole de Dieu va nous donner une réponse bien claire aujourd'hui à l'émission À travers la Bible.
Chers auditeurs, pour en savoir davantage sur le contenu de cette émission, vous pouvez contacter en tout temps Radio Espoir via Internet à www.radioespoir.ca ou par téléphone, sans frais, au 1-877-LESPOIR, 1-877-537-7647.
Bonjour, ici Caro. On a beaucoup de films de nos jours qui utilisent la sorcellerie comme sujet principal. Quelques-unes de nos questions à l'émission d'aujourd'hui vont mettre la lumière sur ce sujet d'actualité. Alors voici nos questions. Est-ce que toute puissance surnaturelle est d'origine divine? Est-ce que la sorcellerie est un jeu? Est-ce qu'un chrétien peut être possédé du démon? Est-ce que c'est bien qu'il y ait quelque chose de plus important que Jésus dans notre vie? De quelle manière est-ce qu'on doit approcher le Seigneur Jésus? Est-ce vrai que l'espoir et la vie sont en Jésus-Christ seul? Quand un enfant meurt avant d'avoir l'âge de raison, où est-ce qu'il va? Demeurez à l'écoute. Les Saintes Écritures vont mettre la lumière sur tous les sujets contenus dans nos questions. Le pasteur Régent Joly a la Bible en main. Il est prêt à nous donner ce précieux enseignement de la parole de Dieu. Mais premièrement, prions. Ô Seigneur, on a besoin de ta lumière. Parce qu'on désire comprendre tes saintes écritures. Encore une fois aujourd'hui, viens nous enseigner. On a besoin de toi. Amen. À toi, Régent.
Merci beaucoup, Caro. L'évangile selon Marc, qui est un évangile où il y a de l'action, raconte plus de miracles que les autres évangiles. Et nous en avons trois dans ce cinquième chapitre. Ces miracles démontrent l'omnipuissance de Dieu. Ces éléments font de ce chapitre un chapitre remarquable. De plus, nous allons aussi nous arrêter sur le sujet de la possession démoniaque. En étudiant l'Évangile selon Matthieu, nous avions dit que nous reviendrons plus en détail sur ce sujet plus loin. C'est aujourd'hui que nous allons le faire. Chers amis, débutons notre lecture. Marc, chapitre 5, verset 1er. Ils arrivèrent à l'autre bord de la mer, dans le pays des Gadaréniens. Le Seigneur vient d'enseigner plusieurs paraboles alors qu'il était de l'autre côté de la mer de Galilée. Il était épuisé et il vient d'arriver par la mer. Les Gadaréniens habitaient le pays qui avait été donné de la tribu de Gad, du côté est du Jourdain. Ils avaient demandé la permission d'y demeurer plutôt que de poursuivre leur chemin dans la terre promise. Maintenant, ils font l'élevage des cochons, ce qui était interdit par la loi mosaïque. Lorsqu'on commence à s'éloigner de Dieu, on va toujours de plus en plus loin. Verset 2. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au-devant de lui un homme, sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impur. C'est un homme, un être humain. Prenez note de ce fait. Il est dans un état désespéré, mais c'est toujours un être humain. Le Seigneur Jésus a vu l'humain en lui en dépit de son état. La conduite de cet homme démontre qu'il était un maniaque. Notez ce qui est dit à son sujet, versets 3 à 5. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres, et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne. Car souvent il avait eu les fers aux pieds et avait été lié de chaînes, mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers, et personne n'avait la force de le dompter. Il était sans cesse, nuit et jour, dans les sépulcres et sur les montagnes, criant et se meurtrissant avec des pierres. Il ne semble pas y avoir d'espoir pour cet homme possédé d'un esprit impur. Il demeurait parmi les tombes. C'est là qu'il vivait et habitait. Les tombes étaient des endroits impurs. Il arrivait qu'il y ait des corps exposés. Cet homme ne jouissait plus de contacts sociaux normaux, mais il vivait parmi des morts. Matthieu nous indique qu'en fait, il y avait deux hommes. Cependant, Marc et Luc ne parlent que de celui-ci. Ce deuxième homme ne devait pas être un compagnon de celui-ci. Cet homme était seul au monde. Cet homme avait des pouvoirs surnaturels et personne ne pouvait le lier. Le fait qu'un homme ait des pouvoirs surnaturels ne signifie pas qu'il vienne de Dieu. Cet homme est un cas typique qui illustre cela. Personne ne pouvait le maîtriser. Cet homme était misérable. Il s'infligeait des blessures. D'un point de vue, cet homme pitoyable est sans espoir. Il ne fait que crier. Tout cela était le résultat d'une possession démoniaque. Versets 6 à 8. Ayant vu Jésus de loin, il accourut, se prosterna devant lui et s'écria d'une voix forte. « Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, Fils du Dieu très haut? Je t'en conjure, au nom de Dieu, ne me tourmente pas. » Car Jésus lui disait, « Sors de cet homme, esprit impur. » C'est l'homme qui s'est prosterné devant Jésus, pas le démon. Il avait peur de Jésus. Il souffrait d'une schizophrénie spirituelle, une double personnalité. Parfois, c'est l'homme qui parle, parfois, c'est le démon. Au verset 7, c'est le démon qui dit, « Qu'y a-t-il entre moi et toi? » C'est-à-dire, « Qu'avons-nous en commun? » Le malheureux est possédé. Verset 9. Et il lui demanda, « Quel est ton nom? » « Légion est mon nom, » lui répondit-il, « car nous sommes plusieurs. » En fait, de nombreux démons habitaient dans cet homme. Ce sont les démons qui ont répondu pour l'homme. Il n'a pu donner son propre nom. Les démons révèlent qu'ils sont nombreux. Versets 10 à 13. Et il le priait instamment de ne pas les envoyer hors du pays. Il y avait là, vers la montagne, un grand troupeau de pourceaux qui paissaient. Et les démons le prièrent, disant, « Envoie-nous dans ces pourceaux, afin que nous entrions en eux. » Il le leur permit, et les esprits impurs sortirent, entrèrent dans les pourceaux, et le troupeau se précipita des pentes escarpées dans la mer. Il y en avait environ 2000, et ils se noyèrent dans la mer. Nous avons devant nous un événement extraordinaire. Les démons ont fait une requête étrange. Ils préfèrent habiter des pourceaux que de retourner en enfer. Pour un démon, aller hors du pays consiste à retourner dans l'abîme. Jésus leur accorde la permission d'entrer dans les pourceaux. Des théologiens modernistes, ceux qui adaptent la parole de Dieu aux nouveautés de notre société, au lieu de s'adapter eux-mêmes à la parole de Dieu, affirment que Jésus était un homme doux qui n'aurait jamais fait une chose pareille. Cependant, les Gadaréniens n'auraient pas dû élever des pourceaux. La loi mosaïque l'interdisait. En permettant cela, Jésus montrait ce pays aveugle et charnel qui ne se rendait pas compte qu'il était sous l'influence des démons, la vérité terrifiante au sujet du monde des esprits malins. Voici quelques points que j'aimerais faire au sujet des possessions démoniaques. La Bible affirme que les démons existent. Si nous croyons la Bible, nous devons croire que les démons existent. Les activités démoniaques étaient très évidentes au temps de Jésus, mais elles ne se confinaient pas à cette époque. En fait, nous remarquons une augmentation de la sorcellerie de nos jours. Nous entendons de plus en plus parler de cas étranges dans les médias de nos jours. Les démons cherchent à posséder des individus. Ils essaient de manifester leur nature méchante à travers des humains. Les démons sont agités. Cette agitation est décrite dans Luc, chapitre 11, verset 24. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va dans des lieux arides pour chercher du repos. n'en trouvant point, il dit, « Je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. » Cette agitation est caractéristique des hommes méchants. Ils doivent manifester leur nature, et ils sont agités s'ils ne peuvent le faire. Les bons esprits ne cherchent pas à posséder les humains. Seul le Saint-Esprit habite dans les humains, et cela seulement chez les chrétiens. Aussi vrai que le Saint-Esprit habite dans les croyants, les démons peuvent posséder les incroyants. Les démons ne peuvent pas posséder un croyant, comme le dit la parole, 1 Jean chapitre 4, verset 4, « Parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. » Celui qui habite dans le croyant, c'est le Saint-Esprit. Celui qui habite dans le monde, c'est Satan. Si vous êtes chrétien, vous ne pouvez pas être possédé du démon. Dans cet épisode, les démons préfèrent un troupeau de pourceaux à l'enfer. Prenez note de cela, si vous pensez que l'enfer est un endroit plaisant où vous rejoindrez tous vos amis. La Bible ne nous dit rien au sujet de leur origine. Tout ce que je peux proposer n'est que de la spéculation. Les démons semblent être très nombreux. Ils sont sous le contrôle de Satan. Ces démons pourraient être les anges déchus qui ont suivi Lucifer. Personnellement, je le pense, mais je ne m'aventurerai pas plus loin sur cette voie. Ils veulent détruire l'humanité. Ils exécutent le programme de Satan. Nous avons des cas de possession démoniaque en Amérique du Nord. Même des professeurs d'université pratiquent la sorcellerie avec leurs étudiants. Ces personnes affirment découvrir la réalité en faisant cela. Je veux bien le croire. Satan est disposé à accorder cela à ceux qui l'adorent. La question primordiale est, quel aspect de la réalité découvre-t-il? Le Seigneur Jésus a le pouvoir sur tous les démons. Nous devons savoir que Jésus-Christ est le plus fort. Les croyants n'ont pas à avoir peur des démons ou à avoir un concept superstitieux ou sinistre d'eux. Si vous pensez qu'un ou des démons vous influencent, alors priez Jésus-Christ afin qu'il vous aide. Les démons ont été chassés au nom de Jésus, et c'est manquer de foi que d'avoir peur d'eux aujourd'hui. Si vous pensez que des démons vous contrôlent ou vous possèdent, je vous recommande d'aller voir quelqu'un qui fait de la relation d'aide. Les démons ne peuvent pas vous posséder ni vous contrôler. Rappelez-vous, le Seigneur est plus puissant que les démons. Versets 14 à 20. Ceux qui les faisaient paître s'enfuirent, répandirent la nouvelle dans la ville et dans les campagnes. Les gens allèrent voir ce qui était arrivé. Ils vinrent auprès de Jésus, et ils virent le démoniaque, celui qui avait eu la légion, assis, vêtu et dans son bon sens. Ils furent saisis de frayeur. Ceux qui avaient vu ce qui s'était passé leur racontèrent ce qui était arrivé au démoniaque et au pourceau. Alors ils se mirent à supplier Jésus de quitter leur territoire. Comme il montait dans la barque, celui qui avait été démoniaque lui demanda la permission de rester avec lui. Jésus ne le lui permit pas, mais il lui dit, « Va dans ta maison, vers les tiens, et raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait, et comment il a eu pitié de toi. » Il s'en alla, et se mit à publier dans la Décapole tout ce que Jésus avait fait pour lui, et tous furent dans l'étonnement. Les Gadaréniens ont demandé à Jésus de partir une fois le troupeau de pourceaux détruit. Ils préféraient leurs pourceaux à Christ. Y a-t-il quelque chose que vous préférez avoir plutôt que Christ? La question est encore d'actualité aujourd'hui. Qu'est-ce qui est plus important que Jésus dans votre vie aujourd'hui? Voyez la bonté et la miséricorde de Jésus. Les habitants de ce pays lui demandent de partir, car ils le tiennent responsable de ce qui est arrivé au pourceau. Jésus repart, mais il laisse un missionnaire pour leur annoncer ce qu'il a fait. Il leur laisse un témoin qui préparera le terrain pour sa prochaine visite, qui aura lieu alors qu'il sera en route pour la croix. Jésus leur donne une nouvelle chance de le recevoir et d'être sauvés. Il leur laisse un témoin crédible dont la vie totalement transformée attirera l'attention des gens. Poursuivons notre lecture à partir du verset 21. Lisons les versets 21 à 31. Jésus dans la barque regagnait l'autre rive, où une grande foule s'assembla près de lui. Il était au bord de la mer. Alors vint un des chefs de la synagogue, nommé Jaïrus, qui, l'ayant aperçu, se jeta à ses pieds. Il lui adressa cette instante prière. « Ma petite fille est à l'extrémité. Viens, impose-lui les mains, afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. » Jésus s'en alla avec lui, et une grande foule le suivait et le pressait. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait, et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement, car elle disait, « Si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. » Au même instant, la perte de sang s'arrêta, et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui. Et, se retournant au milieu de la foule, il dit, « Qui a touché mes vêtements ?» Ses disciples lui dirent, « Tu vois la foule qui te presse, et tu dis, « Qui m'a touché ?» Les disciples ont trouvé cette question étrange, car la foule pressait Jésus. Mais un seul toucher était un geste de foi d'une personne qui voulait être guérie. Les choses n'ont pas changé aujourd'hui. De nombreuses personnes utilisent le nom de Jésus de tous bords et de tous côtés. Beaucoup pensent que ces personnes connaissent Jésus, mais en réalité, elles ne font que le toucher comme la foule l'a fait, pas comme la femme qui s'est avancée dans la foi. Versets 32 à 34. Et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme, effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit, « Ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. » Pendant ce temps, la fille de Jaïrus meurt et on vient le lui annoncer. Versets 35 à 40. Comme il parlait encore, survinrent de chez le chef de la synagogue des gens qui dirent, « Ta fille est morte, pourquoi importuner davantage le maître ?» Mais Jésus, sans tenir compte de ces paroles, dit au chef de la synagogue, « Ne crains pas, crois seulement. » Et il ne permit à personne de l'accompagner, si ce n'est à Pierre, à Jacques et à Jean, frère de Jacques. Ils arrivèrent à la maison du chef de la synagogue, où Jésus vit une foule bruyante et des gens qui pleuraient et poussaient de grands cris. Il entra et leur dit, « Pourquoi faites-vous du bruit? Et pourquoi pleurez-vous? L'enfant n'est pas morte, mais elle dort. » Et ils se moquèrent de lui. Alors, ayant fait sortir tout le monde, il prit avec lui le père et la mère de l'enfant, et ceux qui l'avaient accompagné, et il entra là où était l'enfant. Jésus se rend chez Jaïrus. Il fait premièrement sortir tous ceux qui n'ont pas de foi. Verset 41. Il la saisit par la main et lui dit, « Talitha koumi, ce qui signifie, jeune fille, lève-toi, je te le dis. » Talitha koumi est une expression araméenne qui signifie « petite brebis, réveille-toi ». Jésus a prononcé de beaux mots doux. Jésus a accompli toutes ses résurrections en adressant la parole aux personnes décédées. Ce fut le cas du fils de la veuve, de Naïm et de Lazare. Êtes-vous un chrétien ou une chrétienne qui a perdu un enfant avant qu'il ait atteint l'âge de raison? Un jour, Jésus-Christ reviendra et il prononcera de nouveau ces mots. « Petite brebis, réveille-toi. » Le jeune corps que vous avez enseveli ressuscitera, glorifié, et rejoindra l'esprit de votre enfant qui est auprès de Christ. Vous reverrez alors votre petit enfant. Poursuivons et terminons notre lecture pour aujourd'hui, les versets 42 et 43. Aussitôt, la jeune fille se leva et se mit à marcher, car elle avait 12 ans, et ils furent dans un grand étonnement. Jésus leur adressa de fortes recommandations pour que personne ne sût la chose, et il dit qu'on donna à manger à la jeune fille. Jésus est très pratique. Il sait qu'un enfant qui se réveille ou qui se remet d'une maladie a faim. Il dit aux parents de nourrir leur fille. C'est pratique et merveilleux. Chers amis, nous venons de voir 3 grands miracles qui illustrent le message de l'Évangile selon Marc. Jésus-Christ est le serviteur de Dieu qui agit avec la puissance de Dieu. Christ est un homme d'action, qui n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie, comme la rançon de plusieurs. Citation de Marc, chapitre 10, verset 45. Ici, Christ manifeste sa puissance en chassant des démons d'un homme, en guérissant une femme que personne ne pouvait aider, et en ressuscitant une fille de 12 ans. Chers amis, voyez-vous le scénario de Dieu? Il est totalement l'inverse de celui du diable. Dieu nous montre, à travers les Écritures, qu'il est le seul sur qui l'on peut compter, pour nous sortir des griffes des ténèbres. Car les ténèbres ont été créées par Dieu. Le Créateur domine sa création. Rien ne lui échappe et rien ne le surprend. Si nous devons craindre quelqu'un, c'est Dieu. Malheureusement, celui qui est dans le monde, le malin, Satan et son armée d'anges déchus exercent une influence auprès des humains qui ne connaissent pas Dieu, les poussant à produire un système qui leur permet de vivre une existence terrestre centrée sur eux-mêmes, ignorant l'existence de Dieu. Dans la génération actuelle, un message de plus en plus nous est transmis, qui nous dit en général que l'humain est à la merci d'un monde occulte destructeur, et que s'il n'est pas possible humainement de s'en sortir, nous devons faire appel à des puissances autres venant du monde occulte. Jour après jour, l'humanité est manipulée, chers amis, à coups d'effets spéciaux et d'écrans géants, par exemple, de super-héros et de créatures venant de l'au-delà qui ont des pouvoirs surnaturels. La Bible, elle, nous dit que ces moyens surnaturels viennent tous du malin. Si l'on y pense bien, l'humanité est vraiment manipulée par un grand courant de pensée. Comment pouvons-nous demander l'aide à celui qui nous persécute et qui ne nous veut que du mal? C'est complètement insensé. Prochaine émission, Marc, chapitre 6.
Merci, Régent. On peut voir beaucoup de miracles dans l'Évangile de Marc. C'est Jésus, serviteur de Dieu, qui agit avec la puissance de Dieu. Et malgré sa toute puissance, il est venu, comme Régent nous l'a dit aujourd'hui, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Il a chassé des démons, il a fait des guérisons, il a même ressuscité une fille de 12 ans. Wow! Mais même si je suis épatée par tous ces miracles, il y a quelque chose dans la leçon d'aujourd'hui qui m'a particulièrement touchée. On dirait que ce sont les choses les plus simples qui me touchent le plus. Régent a parlé d'une jeune fille que Jésus a ressuscitée pour nous enseigner que l'espoir et la vie sont en Jésus-Christ. puis il s'est adressé aux gens qui ont perdu un enfant qui n'avait pas encore atteint l'âge de raison. Il nous a dit qu'un jour, le Seigneur Jésus viendra et prononcera de nouveau les mots « Petite brebis, réveille-toi ». Ce qui veut dire que le jeune corps qui a été enseveli ressuscitera glorifié et rejoindra l'esprit de ce petit enfant qui est auprès de Jésus. Et donc, vous reverrez votre enfant s'il est mort avant d'avoir l'âge de raison. C'est pas merveilleux, ça? Maintenant, toi, mon ami, toi qui as dépassé l'âge de raison, qui a, en cours de route, perdu un enfant qui ne l'avait pas encore atteint, aimerais-tu être sûr que quand tu vas mourir, tu vas aller rejoindre cet enfant? Aimerais-tu être sûr de passer l'éternité, non seulement avec lui ou elle, mais avec le Seigneur Jésus, le Fils de Dieu, Dieu qui s'est fait homme afin de venir souffrir et mourir sur la croix pour payer la dette de tes péchés? Tu as peut-être pensé au moment du décès de ton enfant que sa mort était injuste. Mais tu peux aussi voir, d'après la leçon d'aujourd'hui, que ton enfant a été béni de ne pas avoir eu le temps de connaître le péché, qu'il est donc avec Dieu pour l'éternité. Donc toi et moi, on l'a connu ce péché qui a donné la mort à notre âme, ce péché qui nous a séparés de Dieu. Que faire donc? Eh bien, si tu crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé. C'est la parole de Dieu qui te le dit. Reconnais que tu es un pécheur perdu, que tu n'as pas la capacité de te sauver toi-même. Demande au Seigneur de te sauver, de te donner la vie éternelle. Repends-toi. Demande pardon à Dieu pour tes fautes et demande-lui la force pour te détourner de ta vie de péché. Il va le faire si tu as entièrement confiance en lui. C'est pour toi que Jésus est mort sur la croix. C'est pour moi. Notre dette est entièrement payée. Jésus l'a dit, tout est accompli. Ensuite, il est mort pour toi, il est mort pour moi. Reçois ce cadeau que Jésus veut te donner maintenant, le cadeau de la vie éternelle. Et c'est sûr que le salut s'adresse à tous, mais présentement je parle principalement aux gens qui ont perdu un enfant qui n'avait pas encore connu le péché. Si tu veux être sûr d'aller le rejoindre, confesse le nom de Jésus. Demande à Jésus de te sauver, de te donner la vie éternelle, et tu vas pouvoir passer cette éternité avec ton enfant, et surtout passer l'éternité dans la présence de Dieu, dans la présence du roi des rois, du Seigneur des seigneurs. Accepte Jésus pour ton sauveur. Reçois-le comme ton Seigneur, qu'il soit le maître de ta vie.
Caro, nous invitons les auditeurs à assister à un merveilleux déjeuner de l'espoir. Pourrais-tu nous expliquer qu'est-ce qu'un déjeuner de l'espoir?
C'est justement comme ce que tu viens de dire, Réjean, c'est merveilleux. C'est merveilleux parce que, premièrement, les gens viennent prendre un bon déjeuner gratuitement, en compagnie de gens qui vont les aimer, les entourer, et ensuite, on entend un témoignage d'un vécu, le vécu d'une personne, comme toi, Réjean. La dernière fois que j'ai entendu ton témoignage, j'ai été épaté. J'ai trouvé ça extraordinaire de t'entendre raconter ce que Dieu avait fait dans ta vie, comment il t'avait transformé, et en même temps, ton sens de l'humour là, qui a transpercé les cœurs et qui a fait rire les gens, qui a fait du bien aux gens. Alors, c'est ça un merveilleux déjeuner de l'espoir. Ça vaut la peine de venir entendre ces témoignages. Et je vous le répète, c'est gratuit.
Nous vous invitons donc à venir participer à ces merveilleux déjeuners de l'espoir qui auront lieu à la grandeur du Québec. Comment faire pour savoir où auront lieu ces déjeuners?
Vous pouvez nous rejoindre par téléphone.
1-877-LESPOIR. 1-877-537-7647 ou via courriel
à www.radioespoir.ca ou à notre adresse postale.
Radio Espoir, casier postal 34-143, Charlebourg, province de Québec, le G1G 6P2. Au revoir.
Bye bye. Cette émission vous a été présentée par Radio Espoir.